Dialogue entre Congolais, Alain Hiroung à la présentation.
Bonsoir. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a récemment interpellé le premier ministre Adolphe Mouzito sur les retombées sociales de l'attente du point d'achèvement. Elle suggère la mise sur pied d'un mécanisme transparent de gestion et de suivi des dépenses à réaliser. Quelle analyse faire de cette interpellation des évêques catholiques congolais? Trois invités participent à cette émission. Emery Okundji, député national de l'opposition et membre du groupe parlementaire Ordre des démocrates et républicains. Honorable Okundji, bonsoir.
Bonsoir.
Ernest Kiagiro, député national de la majorité, membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Honorable Kiagiro, bonsoir.
Bonsoir.
Joseph Kongolo, analyste politique. Monsieur Kongolo, bonsoir.
Bonsoir.
Comme d'habitude, vous êtes très nombreux déjà à nous envoyer vos réactions. Katimbo de Philippines, l'interpellation des évêques pour leur implication dans les retombées de l'annulation de la dette est légitime, car l'Église et État sont les deux grandes institutions toutes instituées par Dieu et qui gèrent le même peuple. Il serait anormal que l'Église n'ait pas de droit de regard sur ce qui peut contribuer au bien-être de ses fidèles. Jacqueline de Kisangani en province orientale, les revendications faites par les évêques de la RDC au gouvernement de Mouzito sont très fondées, car le social du peuple congolais demeure très précaire, je pense qu'avant le point d'achèvement égale après le point d'achèvement. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocatou.net.
Retombée de l'effacement de la dette extérieure de la RDC, 200 millions de dollars alloués au secteur de l'éducation et 50 millions à la santé. C'est la révélation faite par le premier ministre Adolphe Mouzito récemment aux évêques catholiques, membres du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Dans les installations de la Caritas Congo à Kinshasa, le chef du gouvernement et quatre autres ministres étaient allés répondre aux interrogations de la CENCO. Ces interrogations portaient sur les bénéfices de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPPE, pays pauvres très endettés dans la vie des populations et la corruption. Reportage Jeff Goy.
La RD Congo a atteint le point d'achèvement des initiatives PPPE. Cependant, la Conférence épiscopale nationale du Congo aimerait en connaître les retombées dans le budget de l'État, surtout par rapport au secteur clé de l'éducation et de la santé. Car l'Église catholique sollicite d'être impliquée dans la mise en œuvre des retombées budgétaires de cette atteinte du point d'achèvement. Elle suggère la mise sur pied d'un mécanisme transparent de gestion et de suivi des dépenses à réaliser dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. Abdi Léonard Santibi, secrétaire général de la CENCO.
Il y a une part qui est allouée dans ce secteur, donc il y a déjà une première sur l'assiette globale de cette bouffée d'oxygène. Mais ce qui importe pour l'Église, c'est de voir concrètement comment cela sera exécuté. Mais nous avons obtenu que l'argent, par exemple, de la paye des enseignants puisse passer par les mécanismes de l'Église.
Dans le domaine de la corruption, quelles sont les stratégies créées pour l'éradiquer? C'est une des questions posées au Premier ministre qui lui aurait favorablement répondu selon Santédi.
Là où aussi, nous attendons que le Premier ministre puisse partager de ses préoccupations avec le Conseil des ministres pour nous donner la suite.
Grand partenaire du gouvernement dans divers domaines sociaux, l'Église catholique a appris avec joie la dotation annoncée par le gouvernement au diocèse pour le service social à la population.
Merci, Jeff Ngoy. Notez que tous nos efforts pour avoir dans cette émission un délégué de la CENCO sont restés vains. Honorable Ernest Kiagiro, député de la majorité, membre de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, comment vous analysez cette interpellation des électeurs catholiques congolais?
Alors moi, dans ma conception, toute personne physique ou morale de nationalité congolaise a le droit de poser toutes les questions, bien sûr, pertinentes au gestionnaire, qui est le Premier ministre. C'est la même question. Plusieurs fois, lui ont été posées à la chambre basse du Parlement.
Sans succès.
Non. Comment il y a toujours eu des réponses. Mon problème n'est pas tellement qu'on puisse poser des questions au gouvernement. Le problème serait justement qu'on ne pose pas suffisamment des questions au gouvernement. Le problème serait que le gouvernement évolue sans qu'il y ait des interpellations. Donc, l'idée même d'interpeller n'est pas discutable, elle est encouragée. D'ailleurs, si tout le monde interpelle le gouvernement, je pense que le gouvernement se sentira beaucoup plus interpellé que si nous-mêmes, nous seuls, qui sommes chargés de le faire, nous limitons à le faire. Si tout le monde le fait, je pense que c'est bon. Nous allons à une période différente des 50 premières années des indépendances. Tout ce qui est en train de se passer me pousse à croire que maintenant nous allons vers une période où l'Afrique des hommes forts, l'Afrique d'un coup, le Ghana d'un coup, la Tanzanie de Nyerere, le Zimbabwe de Mugabe, le Kenya de Arap Moi ou de Jomo Kenyatta, cette Afrique a vécu un temps et n'a pas résolu certains problèmes fondamentaux des peuples africains. Et aujourd'hui, les peuples africains sont en train d'avoir tendance à vouloir se prendre en charge, sans distinction de race et de culture. Et cette tendance devait interpeller tous les dirigeants africains. Cependant, concernant le point d'achèvement, il y a deux choses précises que je vais donner.
Lesquelles?
Premièrement, nous avons vécu trop au Congo avec des idoles. La première idole, c'était l'indépendance. À l'indépendance, on disait, bon, l'indépendance, il y en a même qui ont dit dans les meetings que les gens, que les morts vont se ressusciter à l'indépendance. On a dit qu'à l'indépendance, chacun va avoir autant de boys blanches qu'il veut. Et l'indépendance est venue, ce qu'il fallait, c'était d'abord la sueur, et on a oublié. Étant donné qu'on était tellement concentrés, malheureusement pour certains jusqu'aujourd'hui, sur les bénéfices du pouvoir, très peu de gens se sont concentrés sur l'exercice du pouvoir, sur l'aspect économique, qui ont totalement échappé.
Après les idoles, de
toute façon. Je parle des idoles toujours. Deuxième idole. À un certain moment, on parlait, ce qui a suivi, objectif 80. Après, conférence nationale. Donc, on est allé d'idole en idole. Maintenant, on a trouvé.
Pour ne pas dire de slogan en slogan.
Oui. Non, c'est-à-dire, les gens, on endort les gens dans une histoire. Moi, je pense qu'on doit. La mentalité qui consiste à penser que les autres peuvent nous aider, ils vont effacer notre dette, c'est bien qu'on ait effacé la dette. Mais moi, je n'ai jamais cru que ce pays doit avoir comme espoir suprême l'effacement des dettes des gens. D'ailleurs, ces dettes, nous ne savons pas cet argent où est-ce qu'il est allé. Moi, je pense que, pour ce qui me concerne, l'effacement de la dette, c'est bon, mais l'effort principal doit venir du Congolais. Si on continue, comme je le vois, à voir les étrangers nous aider à faire des ouvrages et nous ne les balayons même pas, on peut effacer toutes les dettes. Deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il y a. Il faut savoir que le point d'achèvement, le fait qu'on atteint le point d'achèvement, ne disponibilise pas automatiquement des sommes. Surtout si c'est un milieu d'exercice budgétaire comme c'était le 30 juin. C'était peut-être obligé 2011 qu'on a vu les retombées, c'est comme ça que vous avez vu le Premier ministre répondre. Mais même ces retombées-là, par rapport à ce dont la République démocratique du Congo a besoin, c'est signifiant. Cependant, que quoi que ce soit insignifiant ou insuffisant, le souci du peuple congolais, que je comprends tel qu'il est exprimé par les élèves, c'est que ce soit bien géré et bien partagé. Bien partagé par rapport aux priorités, par rapport aux besoins de la population, et bien géré. Parce qu'on peut avoir l'argent, si on ne partage pas bien, même si c'est peu, ça créera toujours des problèmes. Mais, à mon avis, la question posée par les évêques était pertinente, mais ne devrait pas trop nous faire rêver et doit plutôt nous interpeller, nous, à une meilleure responsabilité face à la gestion au contrôle.
Alors, honorable Sévur, avant de donner la parole à l'honorable Okundji, vous dites que les retombées sont insignifiantes. N'a-t-on pas donné trop d'espoir à la population congolaise rapport au point à l'atteinte du point d'achèvement?
Non, on n'a pas donné trop d'espoir. On a expliqué la situation. Chaque fois qu'il y avait on montrait le poids de la dette, c'était un fardeau dont on nous a dégagé. Quand on te dégage du fardeau, comme quand on te dégage du fardeau qui était sur l'épaule, ça ne veut pas dire que ton ventre s'est rempli immédiatement de nourriture. Et donc, il y a eu trop de projections dont certains, malheureusement, semblent avoir été fantasmagoriques.
Honorable Miri Okundji, quelle est votre analyse de cette interpellation des évêques?
Eh bien, merci. Vous savez, les évêques, l'Église vit avec le peuple congolais du jour au jour. Les évêques n'ont fait que traduire les aspirations profondes de notre peuple. Et ils se sont servis des valeurs qui caractérisent l'Église.
Rappelez-vous, Alain, que lorsque vous partez à l'église le dimanche, vous donnez ce que l'on appelle dîme ou alors
l'offrande.
Et tout de suite après l'église, vous remarquerez que les fidèles comptent l'offrande ou comptent. Il faut savoir combien l'église a encaissé le dimanche ou le jour où il y a eu la prière, combien l'église a encaissé. Et cela ne se fait pas de manière isolée. Ça se fait autour de 2, 3, 4. Ça s'appelle la transparence. Je ne crois pas à ce que mon collègue vient de dire, que les retombées de la sainte du point d'achèvement sont très insignifiantes, parce que le gouvernement lui-même, plus d'une fois, ne cesse de déclarer à la presse qu'il a réussi le doublement des recettes. Le gouvernement ne cesse de déclarer avoir atteint des performances dépassant les assignations légales. Or, les informations à ma possession indiquent que la situation relative à l'exécution des dépenses de l'État, telle que prévue dans la loi de finances pour l'exercice 2010, est de plus préoccupante et même plus difficile qu'avant l'atteinte du point d'achèvement. C'est ce qui nous pousse à nous poser une multitude de questions entre la prétention des performances réalisées et la misère inhumaine à laquelle vit le peuple congolais. Alors, donc, la démarche des évêques catholiques n'a fait que traduire, dire tout haut ce que pense le peuple congolais, tout bas au regard des performances chantées par le gouvernement à travers des conférences de presse à chaque occasion. Il ne cesse en tout cas de dire qu'on a atteint des performances dépassant les assignations légales, mais entre les performances atteintes et le vécu quotidien des Congolais, c'est le jour et la nuit. Et la démarche des évêques est tombée au bon moment pour que nous puissions, à travers cette démarche, du moins, bénéficier des retombées de l'atteinte de point d'achèvement, bénéficier des performances dépassant les assignations légales réalisées.
Voilà, honorable Okunji, à cet auditeur, Osé Mombere Masavu de Lumbasho Katanga qui dit grand merci pour les prêtres qui viennent de se soucier du peuple congolais au lieu que les députés puissent jouer leur rôle de contrôler le gouvernement. Visiblement, vous avez posé la même question à l'Assemblée nationale et ça n'a jamais eu de réponse convaincante.
Effectivement, Rung, en ce qui nous concerne, nous, dans l'opposition, nous ne cessons de poser les mêmes problèmes à l'Assemblée nationale.
Vous avouez votre faiblesse.
Nous n'avouons pas notre faiblesse en ce qui nous concerne, nous, députés de l'opposition. Vous savez qu'il y a des mécanismes pour contrôler même le gouvernement. Comment contrôler le gouvernement à l'Assemblée nationale? À travers des questions orales avec débat, à travers des commissions d'enquête, à travers les interpellations. Mais vous savez que cette démarche aujourd'hui, nous ne cessons de les dénoncer même au sein de notre propre institution. Cette démarche aujourd'hui aboutit difficilement. Nous ne cessons de les dénoncer à l'Assemblée nationale. Le contrôle parmi les missions légales, les missions des parlementaires, c'est de légiférer et de contrôler le gouvernement. Mais nous ne cessons de décrier, nous ne cessons de dénoncer que le contrôle parlementaire patine au niveau de notre institution.
Joseph Kongolo, analyste politique, comment vous abordez l'interpellation des évêques catholiques?
Bien, il convient de constater premièrement que
le contrôle up-down, c'est-à-dire le contrôle qui doit venir du Parlement, qui doit contrôler l'action gouvernementale du gouvernement, a manqué un peu son objectif, parce qu'en fait,
a échoué,
parce que d'habitude, c'est le Parlement qui interpelle le gouvernement. Alors ici, nous sommes en train d'assister à ce qu'on appelle contrôle bottom-up, c'est-à-dire c'est la population qui contrôle une institution au-dessus, supérieure. Voyez-vous ? Or, d'habitude et d'ordinaire, c'est une institution qui est au-dessus, qui est le Parlement, qui contrôle le gouvernement. Donc, il y a une faillite, n'est-ce pas, dans le fonctionnement social des institutions, particulièrement le Parlement ici. Et la deuxième chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'interpellation du gouvernement par la CENCO entre dans le cadre de ce qu'on appelle la communication politique. En fait, dans la communication politique, il n'y a pas, n'est-ce pas, que les institutions qui doivent se communiquer, mais il y a aussi la base, la population, qui doit interpeller aussi le gouvernement par plusieurs formes. Ça peut être la pétition, ça peut être des lettres épistolaires, ainsi de suite et tout ça. Ici, nous confirmons ici qu'il y a une nouvelle forme de communication politique dans la scène politique angolaise, et c'est un élément positif. Positif parce que le Premier ministre a accepté d'aller se présenter devant la CENCO. Mais qu'adviendrait-il si, par exemple, les avocats ou encore d'autres associations de la société civile inviteraient le Premier ministre pour s'expliquer sur tel ou tel autre point? Est-ce qu'il va accepter? Ça, c'est encore une interrogation. Nous allons observer ça dans le futur. Mais ce qui est vrai, à propos d'ailleurs du point d'achèvement, c'est que, comme l'honorable Tédiro vient de le dire tout à l'heure, on a attiré tellement l'attention de la population sur le point d'achèvement. On a fait croire à la population que le point d'achèvement, c'était un début de solution durable pour le social de la population, et on a reposé pratiquement le social de la population sur la table du point d'achèvement. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle année budgétaire, et aujourd'hui, la société est en transe. La société tremble parce qu'il y a une crise notoire financière. Et je vous dis que les institutions elles-mêmes sont en danger à cause, n'est-ce pas, du social qui ne suit pas. Alors, je crois que c'est un moment très indiqué pour la CENCO de questionner le Premier ministre sur les retombées sociales de ce point d'achèvement. Parce qu'en fait, si la population, après l'avoir harcelée, n'est-ce pas, avec le point d'achèvement comme la solution du social de la population, et qu'aujourd'hui, c'est le social qui s'enfonce davantage, donc la situation à laquelle nous sommes en train d'assister aujourd'hui, une société en transe, une société débridée, est la conséquence directe de ce social qui s'écreuse davantage, qui risque de mettre les institutions en danger. Donc ça, c'est une situation qui est prévisible, c'est une lecture très simple d'ailleurs que tout le monde fait sous la rue.
Alors, Joseph Kongolo, cette interpellation des évêques catholiques congolais constate-t-elle l'échec de l'année du social promis par le chef de l'État?
En fait, non seulement ça consacre l'échec, mais encore c'est un échec cuisant. L'échec politique, ce n'est pas un échec qui est perçu par tout le monde. Il faut être initié pour constater l'échec politique. Alors, si l'échec politique, particulièrement le cas actuel, est constaté par le commun du mortel, c'est un échec cuisant, un échec profond. Et nous sommes à quelques 9 mois d'ailleurs de la fin de la législature. Je crois très franchement que c'est criant et que le chef de l'État, qui n'a pas encore perdu le temps, qui n'a pas encore totalement perdu, a tout le temps de récupérer et de remettre le social au milieu de la population, de manière à ce que la société soit équilibrée.
Honorable Casiro, vous venez de suivre Joseph Kongolo, cette interpellation des évêques catholiques dénote l'échec du contrôle parlementaire également, la faillite du contrôle.
Je dois répéter ce que je venais de dire, d'abord pour l'éclairage de mon frère et ami, l'honorable Emery Okouji.
Avec des éléments de plus.
Quand je dis que les retombées du point d'achèvement par rapport à ce que moi je conçois comme étant les besoins du Congo sont insignifiants, c'est par rapport à ma vision du Congo. Moi je ne vois pas une République démocratique du Congo avec un budget de 7 milliards. Pour moi, un budget de 7 milliards est une grande diminution pour nos pays comme nous. En toute façon, ça vient du code de mon père.
Mais la majorité a salué ce budget.
Écoutez,
50 ans.
Non, moi je ne prête pas les cerveaux de la majorité pour réfléchir, ni savoir ce que vous parlez. Je dis que pour un pays comme le Congo, 50 ans après l'indépendance, 7 milliards de budget, c'est insignifiant. Parce que je vois les autres pays à côté, à gauche, à droite, qui n'ont pas nos potentialités. Je ne sais pas si les Congolais doivent attendre toujours la manne. Et d'ailleurs, est-ce que Dieu peut donner la manne? Non, Dieu ne peut pas nous donner la manne. Vous savez pourquoi? Quand il a donné la manne à Moïse, Moïse était dans le désert. On ne peut pas donner la manne à un monsieur qui est à côté d'une rivière qui a des poissons, à côté d'une terre fertile, la manne ne viendra pas. C'est de notre sueur qui viendra le port nécessaire pour changer ce pays. C'est pour cela que nous avons un besoin de dire chaque fois les choses telles qu'elles sont. Les aides de l'extérieur, les dons ne peuvent pas développer un pays. C'est l'effort interne. On doit d'abord s'approprier de notre économie, ce qui ne semble pas être le cas à 100% aujourd'hui. Le chèque proclamé de l'action parlementaire. L'action parlementaire, au niveau de cette affaire, s'il s'agit de cette affaire de pôle d'achèvement, dire que le Parlement n'en a pas parlé, c'est peut-être si on n'a pas suivi les travaux, même quand on discutait le budget. On en a parlé. Mon ami ici, mon ami Emery Okonjo, il a interpellé le gouvernement et le gouvernement a répondu.
Et ça aboutit à quel résultat?
Non, et aujourd'hui, ça aboutit à quel résultat? Une tranche très importante de la population telle que les évêques invitent le Premier ministre. Le Premier ministre va répondre. Il répond et il donne des réponses qui avaient déjà été données en partie dans le discours du chef de l'État du 8 décembre, quand il a annoncé qu'il va faire un partenariat avec l'Église catholique. Ça ne vient pas de cette interpellation. Le Premier ministre est allé expliquer aux évêques ce qu'il a fait. Cela ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait, que c'est eux qui l'ont poussé à le faire de deux. Nous devons savoir que nous sommes dans un État qui a une façon de fonctionner. Ce sont les justices qui fonctionnent et la population a le droit avec les moyens qui ont été rappelés par l'analyste politique tout à l'heure, de contrôler le travail du gouvernement. Le contrôle du gouvernement est exercé légalement et essentiellement par le Parlement. Mais chaque citoyen a le droit, selon notre constitution, de poser les questions qu'il faut. Et en plus, si vous ne voyez pas d'inconvénients, en plus, je veux parler du contrôle parlementaire en général. Il y a eu un aspect du contrôle parlementaire qui n'a pas marché, et je l'ai dit, je l'ai toujours dit, c'est du côté de la sanction. Mais quant aux explications qu'on voulait avoir, on les avait toujours. Je peux accepter qu'au niveau de la sanction, il y a eu faillite, et je l'ai toujours reconnu. Mais qu'on dise que le fait que les évêques invitent le Premier ministre, il leur dit comment il travaille, ça. Il avait dit que le Parlement n'existe plus là, je ne vois pas, il n'a pas de lien de cause à effet.
Voilà, prenons cette réaction, honorable Kaviro, qui vient de Kingo Maniema pour vous.
Parlant de l'esprit de Kingo Maniema, nous saluons l'implication des hommes de Dieu pour la recherche de solutions aux problèmes sociaux des Congolais. Est-ce qu'il fallait attendre cette interpellation des hommes de Dieu pour que le Premier ministre Adolphe Mouzito et son gouvernement rendent compte de la souffrance des Congolais?
Bref, réaction, Rabbe Chadou.
Non, justement, mon frère, parce que le Premier ministre a annoncé aux évêques ce qu'il avait déjà fait avant même qu'il ne sache qu'ils vont l'appeler. Bien entendu, moi aussi je soutiens que les évêques puissent interpeller ce gouvernement, parce que je trouve aussi que ce gouvernement, qui est mon gouvernement comme je suis la majorité, a beaucoup de choses à corriger, et que mon frère, si vous me suivez souvent, j'ai toujours dénoncé.
Je pense que ce soit en l'absence de la sanction, comme vous le dites.
Oui, j'ai dit qu'il faut par exemple qu'on diminue la sanction, qu'on diminue la corruption, qu'on diminue l'impunité. On doit le faire, sinon le peuple va nous sanctionner, et ça c'est clair. Mais il faudrait qu'on ne puisse pas penser ici que l'UPP, l'invitation des évêques, le gouvernement n'allait rien faire, parce que le gouvernement est allé dire ce qu'il a fait, parce qu'ils n'ont pas fait un plan ensemble. Et puis je dois rappeler que chaque institution a son travail. Et que quand moi aussi je peux m'appeler, même dans une école, pour expliquer comment on travaille, je vais venir répondre, ça ne voudrait pas dire que le gouvernement est mort.
Merci, Mme Taviro. Il faut signaler qu'aujourd'hui également, la conférence épiscopale nationale du Congo s'est exprimée à travers une lettre pastorale intitulée « Année électorale ». Que devons-nous faire? Et dans ce message des évêques, honorable Emery Okundji, je vais vous lire une phrase. Nous invitons le gouvernement à redoubler d'efforts. La souffrance France, la grande majorité de la population est évidente et indiscutable. La misère est devenue le mode d'existence quotidien pour la majorité des Congolaises et Congolais dans un contexte d'inégalité criante et de prédation chronique au profit d'un petit groupe d'intérêts et d'une certaine élite socio-économique. Comment vous analysez ce propos?
Ah oui, mais ces propos sont corrects, sont à leur place, au regard de la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, à l'heure où, laissez-moi vous dire que si ce gouvernement faisait son travail comme il fallait, eh bien, la démarche des évêques serait inutile aujourd'hui. Et nous ne cessons de le dire. Ce gouvernement ne fait pas son travail comme il faut, ne répond pas aux demandes des Congolais. Et les évêques n'ont fait que sonner, en tout cas, la sonnette d'alarme, mais nous ne cessons de le dire au sein de notre institution, au Parlement. Et d'ailleurs, même le président de la République lui-même l'a dit le 7 décembre 2009 devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Le président de la République rappellera à l'ordre le gouvernement en disant au gouvernement, je tiens à dire que nous ne pouvons pas, dans ces domaines comme dans bien d'autres, aller d'étude en étude, des conseils d'experts à conseils d'experts, ce qui souvent n'est qu'une excuse pour ne rien faire. Ça, c'était un rappel à l'ordre. Et vous remarquerez que ce gouvernement, au lieu d'anticiper, il subit à l'air rond. Il n'y a pas longtemps, vous avez dû remarquer que ce même gouvernement a mis en place une structure intergouvernementale dite Commission contre la vie chère. Donc, le gouvernement se contente, au lieu d'anticiper, il se contente de subir et d'aller toujours d'études en études. Or, les résultats de ces études ne répondent pas aux aspirations profondes de notre peuple. Donc, aujourd'hui, la mauvaise gouvernance est érigée en mode de gestion. Les antivaleurs sont érigées en système de gouvernance. C'est pour cette raison que nous n'hésitons pas à dire que l'alternance s'impose, non pas par le plaisir de s'imposer, mais pour ériger les valeurs d'éthique en gouvernance, en mode de gouvernance dans notre pays, puisque aujourd'hui, le peuple congolais vit dans une misère sans nom, dans une misère qu'il ne mérite pas.
Sauf le député, peut-être.
Ah ben, aujourd'hui, regardez non seulement, c'est une situation, même les députés dont vous faites allusion, ils ont maintenant un mois de 90 jours. Donc, ce n'est pas correct, ce n'est pas normal lorsque l'on prétend réaliser des performances, en tout cas, dépassant les assignations légales. Ces mots ne viennent pas de moi, ce sont des mots qui sont utilisés par les membres du gouvernement qui ont en charge les ministères concernés. Donc, les évêques, c'est dans leur, en tant que berger, c'est dans leur droit de sonner cette sonnette d'alarme. Si nous, au Parlement, nous faisions notre contrôle parlementaire comme il fallait, si la sanction était, en tout cas, faisait partie de la gouvernance dans notre pays, eh bien, croyez-moi que cette démarche peut-être des évêques n'aurait pas lieu.
Prenons cette réaction qui nous vient de Kolwezi Katanga pour vous, honorable Kunji.
Oui.
Par contre, papa, dans la ville de Kolwezi Katanga, par rapport à la réduction de la dette du Congo, il n'y a pas vraiment assez d'impact visible vis-à-vis de la vie sociale de la population. Par exemple, les fonctionnaires de l'État sont restés touchés avec les salaires de l'hiver, les hôpitaux, pas de médicaments, surtout les hôpitaux de l'État.
Un commentaire sur cette réaction,
les Congolais n'ont même plus un minimum aujourd'hui. Voilà ce qui renforce ce que je venais de dire ici, que l'alternance s'impose, puisque nous devons ériger, en tout cas, le mode d'éthique hein, pour la gouvernance de ces pays. Ce n'est pas, alors, ce n'est pas que nous n'avons pas le moyen, mais ce moyen, comme l'ont dit les évêques, au lieu d'entrer dans les caisses du trésor public, dans les comptes du trésor public, ce moyen va dans des poches de particuliers. Et comme vous remarquerez qu'au lieu de sanctionner, eh bien, ce sont ces gens-là qui sont promus. Donc, ils ont des primes d'encouragement lorsqu'ils détournent les deniers publics.
Joseph Kongolo, les évêques ont proposé, ont suggéré la mise sur pied d'un mécanisme transparent de gestion et de suivi des dépenses à réaliser dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. Le gouvernement, visiblement, au Parlement, il n'a pas suivi ces recommandations. Avec les évêques, quel sens accordez-vous à cette démarche?
Bon, d'abord, je voudrais dire ceci, que le peuple congolais a aujourd'hui plus de 14-15 ans d'expérience démocratique. Même si c'est à tâtons, ce qui est réel, c'est que le peuple n'est plus le calembour de l'histoire. Le peuple n'est plus le trompé de tous les jours du temps de Mobutu. Le peuple n'est plus le dupe naïf des uns des autres. Il connaît, il comprend et il sait ce qu'il faut pour demain. Donc, ce n'est pas un rêve. C'est connu. Nous sommes dans la population, nous savons ce qui se dit. Nous savons ce qui peut se dire devant le micro et ce qui peut se dire hors micro. Donc, nous savons déjà qu'il ne faut pas continuer à croire que le peuple est un dupe naïf. Et à ce niveau-là, je crois qu'il faut prendre cette pauvreté criante, cette misère noire de la population, comme la base pour la construction des politiques responsables de développement. Et d'ailleurs, il serait même aberrant de parler de la démocratie. Il serait aberrant de parler du droit de l'homme si le peuple, une population, un homme, est réduit au niveau de l'animal, où chaque jour il quitte le matin, tête tournée vers le bas, comme un animal, en train de chercher quoi mettre sous la dent. Il est lui-même esclave du ventre. Et c'est ça l'homme congolais aujourd'hui. Et ça, c'est révoltant. Je crois que c'est une base sérieuse et objective pour construire des politiques responsables de lutte contre la pauvreté. Parce que vous avez parlé de la lutte contre la pauvreté. Je suis particulièrement moins chaud avec la politique qui a été mise en place ici par le gouvernement sur la lutte contre la pauvreté. Je crois qu'il aurait fallu réunir les membres de la société civile, réunir les institutions indiquées qui œuvrent dans la matière pour pouvoir construire des politiques responsables. Or, depuis qu'on a commencé, les structures sont là, elles ne fonctionnent pas, par manque d'argent, par manque de soucis, et franchement, les résultats sont très moindres. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite dernièrement avec les vieilles institutions qui luttent contre la pauvreté ici sur place, qui est les autres. On a constaté que pratiquement la population n'a pas évolué, alors qu'ils sont venus pour la lutte contre la pauvreté. Vous comprenez? Donc, je crois que le gouvernement devrait approfondir l'étude et mettre des stratégies qui soient valables et adéquates pour la lutte véritable contre la pauvreté de la population.
Alors, je reviens sur ma question concernant les mécanismes transparents de gestion et de suivi des dépenses à réaliser dans le domaine de la lutte contre la pauvreté proposés par les évêques au gouvernement.
Oui, mais est-ce que les
évêques... N'est-ce pas un vœu pieux?
Tout à fait. Est-ce que les évêques ont du moyen de contrôler? Est-ce que les évêques seront impliqués dans le contrôle? Si le Parlement lui-même ne sait pas contrôler, et je ne pense pas que ça va se faire, les objectifs ne seront pas atteints, et ce sera vraiment déplorable. Ce sera vraiment déplorable. Je sais que les évêques n'auront pas assez de moyens, et d'ailleurs, tout ceci s'est fait dans un contexte qui est difficile, un contexte qui est soupçonné d'ailleurs. Comment expliquer? Tout d'un coup, on remet aux évêques la paye des enseignants, les marchés publics, ainsi de suite et tout ça. Et tout ça, c'est analysé autrement dans la société. On est en train de voir un peu des choses faites à la hâte et sûrement sans résultat. C'est bientôt dans 9 mois qu'on va faire le bilan de tout ce que le gouvernement a fait comme concession à l'Église catholique. Nous allons voir ce que ça va donner. Mais nous croyons bien que le contexte est très mal indiqué et nous croyons bien que ça risque d'être pour des fins électoralistes. Alors ça, je ne pense pas qu'il y ait des résultats palpables et positifs.
Deux auditeurs pour vous, Joseph Kongolo, Samy de Colégio Katanga. Le point d'achèvement n'est qu'un slogan qui vient s'ajouter aux autres. Le peuple congolais se retrouve déçu après tant de bruit gratuit. Mieux aurait fallu se taire. André Binet Noir de Bukavu Sud Kivu. Les évêques sont la voix des sans-voix du peuple congolais. La question que je me pose souvent, sommes-nous dans une aristocratie où un petit groupe doit s'accaparer à la richesse du pays? Malgré le point d'achèvement, l'enseignant qui travaille jour et nuit et qui est payé 45 000 francs croupit toujours dans la misère. Bref, réaction Joseph Kongo.
Vous voyez que j'ai dit tout à l'heure que la population connaît tout, ce n'est plus le tromper de tous les jours. Donc il connaît, il a compris et il sait qu'actuellement, il n'y a pas de résultats palpables. Et ça, c'est déplorable. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si les collègues mortels constatent l'échec politique d'un gouvernement ou d'un régime, c'est que l'échec est criant. Or, c'est une matière qui est réservée à des initiés. Et je vous dis franchement que la société est aux abois. Donc, toutes ces déclarations des auditeurs montrent que la société est aux abois et nous sommes... D'ailleurs, la chanson qui nous a introduit ici, j'ai noté le titre « Je ne perds pas le Nord ». Je pense que le gouvernement n'a pas perdu le Nord.
Voilà. Alors, Joseph Kongolo, qu'est-ce qu'il faut faire à quelques mois des élections? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Congolais, finalement, puisse bénéficier de l'attente du point d'achèvement?
Je crois qu'en politique, il y a toujours, tous les jours, est une occasion pour récupérer la situation. En politique, tous les jours, c'est une occasion pour récupérer la situation. Il n'est pas tard. Le gouvernement connaît là où il faut, ce qu'il faut faire. Mais les nouvelles échéances électorales font en sorte qu'on écarte les uns et on approche ceux qui sont de son opinion. Et à ce moment-là, je me rappelle, un professeur me disait toujours que si vous voulez avoir une grande entreprise, cherchez des gens plus intelligents que vous. Si vous voulez avoir une entreprise chétive, cherchez des gens moins intelligents que vous, parce que vous êtes le sommet à ce moment-là. Si vous vous êtes bloqué, eh bien, personne ne peut avancer. Je crois que c'est ce que le gouvernement doit comprendre et tirer des leçons. Objectif et positif.
Honorable Chaviro, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que le peuple qui vous suit en ce moment puisse bénéficier des retombées du point d'achèvement? Concrètement, quelles sont vos propositions?
Dans ma conception, c'est le cas congolais. L'avenir de ma nation, tout ce qui est donné par les étrangers vient des impositions. C'est l'effort principal doit venir d'abord du Congolais lui-même et l'impulsion principale doit venir de l'exécutif. J'ai dit, ça doit être bien géré et bien partagé. J'ai été clair. Si on a $10 et qu'on dilapide 6, déjà les 4 là, il ne faut pas remplir le rôle que les 10 peuvent faire. Ça, c'est une chose bien gérée, bien partagée. Deuxième chose. Quand il y a des situations où vous sentez vraiment qu'il y a des dérapages, qu'il y a une gestion, il faut sanctionner. S'il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de gestion et il n'y a aucun espoir. Parce qu'à ce moment-là, les personnes qui n'ont pas été sanctionnées vont créer beaucoup d'élèves et ça va devenir un bordel, cette République. Je m'excuse de ce terme, je m'excuse du peu. La commission contre la vigère et le document d'indice contre la pauvreté, ce sont les initiatives qui sentent Bretton Woods, les DCP. Ce sont des choses qui sont conçues pour vous et qui nécessairement ne répondent pas à vos intérêts. J'attire l'attention de tous ceux qui sont dans les institutions. Le fait que ceci est d'abord notre pays, il y a quelque chose qui me fait peur ici à Kinshasa. Tout le monde réfléchit comme si les plus petits Belges, les plus petits Américains, les plus petits Anglais étaient les plus grands savants. La réalité, elle est nôtre. Mais pour que les autres puissent nous respecter, il faudrait que d'abord nous puissions poser des actes, nous puissions gérer de façon à ce qu'on nous respecte. Si on se rend compte que nous-mêmes déjà, quelqu'un prend 10 gâteaux et donne à l'autre une moitié, il n'y aura pas de respect de l'extérieur non plus. Et ailleurs, puisque nous sommes à la fin, il faudrait aussi que la population congolaise puisse apprendre à utiliser ses doigts. Les évêques ont utilisé les doigts.
Merci.
Mais je voudrais dire à mon frère que la politique, selon ma conception, c'est une affaire idéologique, n'est pas réservée aux initiés. Tout Congolais a droit de poser des questions politiques à qui il veut.
Merci. Honorable Emery Okundi, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour soulager tant soit peu le Congolais?
Eh bien, merci, Alain. Elle, aujourd'hui, je crois que vous remarquerez que la plainte suisse de partout quant au blocage de l'État et de la réalisation de son budget, tant en rémunération, en fonctionnement, en investissement, en rétrocession aux provinces, qu'en paiement des créances dues aux fournisseurs nationaux. Bref, la majorité au pouvoir aujourd'hui n'a pas la volonté politique réelle de changer positivement les choses. D'où l'alternance s'impose pour que nous puissions, cette alternance puisse ériger les valeurs d'éthique pour la gouvernance du Congo.
Ça, vous l'avez déjà dit, mais quelles sont les propositions concrètes dont le gouvernement peut tenir compte pour améliorer la situation de ses citoyens?
La lutte contre les antivaleurs qui rongent, le mot qui ronge la gestion de la Respublica. Les évêques l'ont souligné, ils ne cessent de le souligner. Donc, la corruption, les détournements des deniers publics, la mauvaise gouvernance, la gestion des ressources naturelles, la transparence dans la gestion, tous ces mots-là, ce gouvernement est incapable de les appliquer, d'incorporer cela dans sa gouvernance. C'est ce qui fait que le Congo est toujours malade, les géants est à genoux aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est un manque cruel de volonté politique de gouverner autrement le Congo.
Merci. Joseph Kongolo, il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Il faut bien gérer, bien partager et sanctionner.
Oui, mais tout ça.
Cela fait tout.
Tout ça relève d'un leadership éclairé. Quand vous n'avez pas un leadership éclairé, vous êtes l'image du reste. Des dirigeants et des dirigeants. Il faut un leadership éclairé. Et je voudrais dire ceci pour terminer, que la pauvreté, c'est comme du magma. Actuellement, la société congolaise, il faut l'observer de l'intérieur et avec beaucoup d'attention, c'est comme du magma. Nous ne savons pas quel jour on va cracher du feu. La pauvreté est noire, elle est vraiment très noire. Nous ne savons pas quel jour on va cracher du feu et ça sera dommage.
Alors, par rapport aux propositions au gouvernement,
qu'est-ce que le gouvernement doit faire? On a dit tout ce qu'il faut dire, mais moi je dis que si le leadership, le chef lui-même ne donne pas l'impulsion. S'il ne donne pas l'impulsion, le reste ne saura pas suivre le pas du chef. Et si le chef reste muet sur ça, bien croyez-vous, la suite.
Honorable Clavier, aux conclusions.
Je suis en train de dire ceci au peuple congolais. Ne transformons pas les directions civiques à des luttes pour le pouvoir. Parce que j'ai constaté une chose en arrivant à tout ça, que la mentalité de corruption règne et dans l'opposition, et dans la majorité, et dans toute la société. C'est toute la question de la corruption ne doit pas être stigmatisée sur les signes. C'est nous tous qui devons changer ces habitudes fortes, dans les écoles, dans la rue, dans quoi. C'est tout ça qui doit changer. Et donc, s'il y a remise en question.
Concluez, je vous en prie.
Oui, je suis en train de dire, en conclusion, c'est nous tous qui devons changer, mais il faudrait que l'impulsion, dans le sens que nous avons proposé tout à l'heure, vienne de l'exécutif.
Honorable Kondi, conclusion.
La conclusion, c'est d'imposer l'alternance pour que nous puissions ériger les valeurs d'éthique pour la gouvernance du Congo, étant donné que la majorité au pouvoir aujourd'hui est incapable d'imposer ces valeurs-là, de gouverner le Congo dans la transparence.
Mais honorable Kavira dit que et la majorité et l'opposition sont tous corrompus.
Dès qu'ils sont au pouvoir, et ils sont incapables d'ériger les valeurs d'éthique. C'est pour rien que les évêques sont partis voir le Premier ministre.
Merci. Joseph Kongolo conclué. Honorable Kavira, je vous en prie. Joseph Kongolo conclué.
Donc, je veux juste demander à la population de ne pas baisser la garde, d'observer et de réclamer tout au gouvernement parce que c'est de leur droit aussi.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers internautes et auditeurs, de nous avoir suivis. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Kevin Kouti, Samuel Kachak, Guy Maté, Félicité Lamondo. Merci à Willem Lungamba et Patrick Kiasongwa qui ont assuré la technique. À la présentation, Alain Rung. Bonne fin de semaine à tous. Au revoir. I'm going to go to the next one.
Thank you.